Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Regard sur l'actualité de la semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce matin. Et nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités ici au studio et au téléphone, nous essayerons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quels peuvent être leurs impacts, leurs implications sur la RDC. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Claude Senghenia. Il est journaliste et correspondant de Actualité.cd, basé à Butembo, au Nord Kivu. Chers collègues, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous du regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour Tati, bonjour à nos auditeurs ainsi qu'aux co-débatteurs.
Nous avons ici au studio le professeur Dadi Salé, il est spécialiste en développement. Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous des regards sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bonjour à tous.
Notre troisième invité, c'est Pascal Kambala, il est journaliste de la rédaction de la Radio Biwan, basée ici à Kinshasa. Chers collègues, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous.
Oui, bonjour Tati, merci beaucoup pour cette invitation. Je salue aussi tous les auditeurs, auditrices de la radio Okapi.
Tati Mapuku est à la présentation de ces numéros. Kéline Kouté coordonne ces magazines. Martin Sebujangwe est à la supervision du magazine Regard sur l'actualité de la semaine. Et Billy Landry Betou s'occupe pour sa part de la prise de son. Bonne condition d'écoute du magazine radiophonique Regard sur l'actualité de la semaine de Radio Okapi.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Trois thèmes sont au rendez-vous de ce magazine Regard sur l'actualité de la semaine, à savoir les rapports d'Amnesty International pour les auteurs des crimes contre l'humanité lors de la répression d'une manifestation à Goma au Nord Kivu le 30 août 2023, les discours du chef de l'État devant les deux chambres réunies sur l'état de la nation, les deux chambres c'est le Parlement et le Sénat, et la poursuite de l'opération Ndobo qui vise à lutter contre les banditismes urbains à Kinshasa, et l'opération va s'étaler sur toute la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous sommes dans regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Claude Senghenia. Il est journaliste et correspondant de Actualité.cd, basé à Butembo, au Nord Kivu. Professeur Dadi Salé, il est spécialiste en développement. Et Pascal Kambala, journaliste de la rédaction de la Radio Biwan, basé ici à Kinshasa. Avant d'analyser ces trois grands thèmes ayant dominé l'actualité cette semaine, j'accorde à chacun de vous une ou deux minutes pour commenter une nouvelle, une actualité qui a retenu votre attention cette semaine au pays ou à l'étranger. Alors, nous allons commencer par vous, Claude Senghenia. Nous rappelons que vous êtes journaliste et correspondant des Actualités.cd, basé à Butembo au Nord Kivu. Dites-nous, quelle est l'actualité qui a retenu personnellement votre attention cette semaine dans les Grands Nord?
Dans le Grand Nord, l'actualité reste dominée par la reprise des combats qui opposent depuis maintenant une semaine le FARDC appuyé par les Wazalendo au M23 appuyé par l'armée rwandaise dans l'issue du territoire des Lubero. Mmh. Et cela malgré le cessez-le-feu censé être observé dans la zone. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que depuis de la part de témoignages, il nous vient toujours des forces qui actuellement notre armée semble bien se comporter parce qu'il y a certains villages qui commencent. Il connaît une résistance et il commence à progresser, à la surprise notamment de rebelles qui ont été le premier à lancer l'offensive. Mmh. Alors la question qu'elle se pose maintenant, est-ce que cette prouesse va être durable ou ce n'est qu'une prouesse infirmière? Mais je pense que cela va également dépendre en fait de plusieurs facteurs, notamment la ratio alimentaire, l'organisation de notre armée dans la zone, la logistique, parce que ce qu'il faut noter actuellement, nous sommes désolés de constater dans notre zone qu'aujourd'hui, mmh, l'armée congolaise n'a plus de véhicules, des engins pour se déplacer. Ils ont repris l'ancienne habitude de prendre à location de véhicules des civils, notamment de camions, ce qui n'honore pas l'armée, ce qui ne peut pas, en fait, nous garantir que ce genre de provinces vont demeurer donc assez durables si les choses ne s'arrangent pas du côté de l'armée. Mais aussi, notre actualité, toujours dans ces zones, c'est qu'il y a le rebelle ougandais d'ADF qui peut quitter la zone de Beni et qui tue aujourd'hui dans les territoires des Lubero sous silence, parce que c'est une zone, notamment la zone de Mangoureji, qui est enclavée, il n'y a pas de route, il n'y a pas de réseau de télécommunications. On pense qu'il s'agit de petits conflits alors qu'il y a de 21 de morts qui sont enregistrés chaque semaine dans plusieurs villages de la région, malgré les déploiements dans la zone des militaires congolais et ougandais. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une attention particulière sur et ce déplacement du conflit qui quitte le foyer de Beni vers celui des Lubero, parce que si quelque chose n'est pas fait, et le risque de voir les groupes terroristes ADF qui est aujourd'hui malmené à Beni puisse prendre de l'ampleur, surtout dans ces grands foyers forestiers, parce qu'après Walikale, c'est le Lubero, notamment le secteur de Bapere, qui est le deuxième massif forestier, et s'ils parviennent à se nicher là-bas, ça sera plus compliqué de les traquer et comme il en est le cas dans la région de Beni.
Merci beaucoup, cher collègue Claude Senghelia. Nous rappelons que vous êtes journaliste et correspondant de Actualité.cd basé à Butembo, au Nord Kivu. En même temps, on signale que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va se rencontrer avec son homologue Paul Kagame ce 15 décembre à Luanda. On espère qu'à l'issue de ces rendez-vous, il y aura une solution durable concernant ces conflits qui se vivent à l'Est. Je me tourne vers vous, professeur Dadi Salé. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en développement. En une ou deux minutes, dites-nous quelle est l'actualité qui a captivé votre attention cette semaine qui est en train de finir.
C'est la même actualité que mon co-débatteur qui vient d'expliquer que ça fait plus de 12 jours d'une façon intensive que l'armée et les Oisalendo sont en train de se battre. Donc je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire, mais j'ajoute un fait. C'est que je suis content de voir que dans son discours de l'état de la nation, on va en parler, il a bien soutenu les Oisalendo. Parce que pour l'instant, il y a une confusion. C'est que nous avons de vrais et de faux Oisalendo. Ce qui fait qu'il y a de vrais Oisalendo qui ne sont que de patriotes qui défendent la nation. Donc quand les chefs de l'État, au niveau de l'État, de la nation, le soutiennent, ça nous va tout droit au cœur. Et quand effectivement le chef de l'État le fait plutôt à travers ses organes devant les Nations Unies, parce que là ça fait un peu une confusion, il y a les Rwandais qui essayent de salir, n'est-ce pas, à tout prix devant les Nations Unies, les Oisalendo, ce sont les tueurs, etc. Et qu'effectivement, quand le gouvernement prend le pas pour défendre l'honneur, effectivement, des compatriotes qui se battent pour la nation, à ne pas confondre avec des compatriotes qui commettent des crimes. Il faut bien séparer. Les Oisalendo, ce sont des patriotes. On ne peut pas avoir des patriotes qui tuent et qui pillent la nation. Donc, on prend le bon côté. Donc, je pense que cette nouvelle m'a rassuré. Et une combinaison, c'est qu'avec la RAD, Réserve Armée de la Défense, là, il y a beaucoup de Oisalendo qui étaient en prison, ça va, indûment. Parce qu'au fond, vous savez, il y a trop de complicité et qu'il y a vraiment des procédures pour essayer de voir comment renforcer les Oisalendo et dans le sens de civisme, ça va, parce que ça, c'est très important.
Je pense qu'il y a une corrélation, professeur, avec les thèmes, les grands thèmes que nous allons développer dans les corps de ces magazines, regard sur l'actualité de la semaine. Merci beaucoup d'avoir émis votre avis sur l'actualité qui a captivé votre attention cette semaine qui est en train de finir. Je me tourne vers vous, Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste de la rédaction Radio Biwan basée ici à Kinshasa. Dites-nous, quelle est l'actualité qui a captivé personnellement votre attention cette semaine qui est en train de finir?
Merci beaucoup. Moi, j'aimerais tout d'abord signaler un élément, une pratique contraire à la loi que j'ai moi-même vécue dans une banque commerciale. Qu'est-ce qu'il y a comme situation? Lorsque les agents, les fonctionnaires, agents de l'État, fonctionnaires ou agents para-étatiques de l'État se rendent dans des banques commerciales, vous arrivez à un moment donné, on vous dit, il n'y a plus de francs congolais. Et si vous voulez toucher votre salaire, il faut toucher, accepter de prendre, de retirer les dollars américains. Je me pose la question, quelle est la monnaie qui a cours légal en RDC? c'est le dollar américain ou c'est le franc congolais? Quelle est la monnaie à payer les militaires, les fonctionnaires, les agents de l'État, les agents para-étatiques de l'État? Ce n'est pas les dollars américains.
Non.
Et vous savez quoi? Je me suis opposé à tout cet argent-là, mais malheureusement, ils ont dit qu'il n'y avait pas de francs congolais, il faut prendre un dollar. Mais ils vous appliquent un taux, un dollar 2850 francs congolais. J'ai retiré l'argent, c'était pour mon père, parce que j'ai eu une procuration spéciale pour lui, pour sa rente. Mais j'ai dû quand même appeler un directeur de la banque centrale pour lui signaler que dans telle banque, dans telle agence de telle banque, il y a une pratique bizarre. Qu'on exige aux fonctionnaires de l'État, on dit, il n'y a pas de francs congolais, il faut retirer en dollars. Et le directeur de la Banque centrale a essayé de contacter les trésoriers de cette banque pour que cette situation change. Et heureusement, la situation a changé. Je dénonce avec véhémence que ce n'est pas, les autorités de la Banque centrale doivent veiller. Parce que dans cette pratique, ce sont les banques commerciales qui se retrouvent au détriment des fonctionnaires. Tout d'abord, quel est le salaire que touchent les fonctionnaires congolais, un militaire congolais, un agent de l'État? Et alors, arrivé dans une banque commerciale, on vous applique un taux et on vous demande de toucher en dollars et on accuse la banque centrale de ne pas donner assez de francs congolais aux banques commerciales. Et ce n'est pas normal. Donc je pense que les autorités qui nous suivent, ils doivent veiller. Et aussi, j'ai appelé les syndicats des infirmiers. Ils m'ont dit, ils ont déjà alerté les autorités, mais rien ne change. Il est anormal dans un pays souverain que la monnaie qui doit circuler, c'est les francs congolais, qu'on impose aux Congolais par les banques commerciales à toucher les dollars. Et surtout, à la fin du mois, donc, c'est une pratique qui est profitable à ces banques commerciales, qui ce sont des pratiques criminelles au niveau économique. Il faudra que ça cesse. S'il n'y a pas de francs congolais, que ces banques-là ferment.
Merci beaucoup, cher collègue Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste à la rédaction de la Radio Biwan, basée ici à Kinshasa. Merci d'avoir commenté avec nous l'actualité qui a captivé personnellement votre attention. Et merci à vous tous d'avoir réagi à chaud sur un fait d'actualité qui a retenu votre attention cette semaine. Alors, les premiers thèmes à analyser dans ces rendez-vous concernent les rapports d'enquête d'Amnesty International pour les auteurs de crimes contre l'humanité qui serait commis lors de la répression d'une manifestation à Goma au Nord Kivu le 30 août 2023. À cette date, un massacre a eu lieu à Goma dans la province du Nord Kivu en RDC. Les forces de sécurité congolaises ont réprimé violemment une manifestation pour la petite histoire organisée par les groupes politiques et religieux la foi naturelle judaïque messianique vers les nations, également connue sous le nom de Wazalendo. Et selon les rapports, au moins 56 personnes ont été tuées et plus de 80 blessées et plus de 150 personnes arrêtées. Amnesty International a mené une enquête approfondie et a identifié plusieurs hauts responsables militaires qui devraient faire l'objet d'une enquête pour des possibles crimes contre l'humanité. Comment analysez-vous cette actualité, chers collègues? Je commence par vous, Claude Senghenia. Nous rappelons que vous êtes journaliste à la rédaction des Actualités.cd, basée à Butembo, au Nord Kivu. Personnellement, comment commentez-vous cette nouvelle qui a été publiée le mardi dernier par l'ONG Amnesty International?
Merci beaucoup. J'ai lu le rapport d'Amnesty International. En fait, je pense que ces rapports viendraient mettre à la place publique des questions qu'on s'est posées depuis le drame de Goma. La première question, c'était par rapport surtout au professionnalisme de nos forces, parce que quand on essaie de lire les rapports, quand on essaie de se souvenir de tout ce qui avait été rapporté pendant le sida qui a eu lieu donc l'année dernière, l'on se rappelle qu'il y avait eu beaucoup plus de morts, selon le gouvernement congolais, une cinquantaine de morts, selon les Nations Unies, tel que de révélé dans les rapports d'Amnesty, une centaine de morts, et signalé dans une situation, dans un drame où il n'y a pas eu d'affrontement, c'était quand même troublant. On parvenait à se poser la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On est en face de civils qui ne sont pas armés, parce que jusque-là, il n'y a pas de témoignages qui ont abordé dans ce sens, qui ont révélé qu'ils avaient des armes. En fait, dans les rangs, mais qu'on parvienne à aboutir à un nombre assez inquiétant, assez déplorable de morts. Donc cela dénote au moins un peu du manque aussi de professionnalisme dans l'intervention de nos forces de défense et sécurité. Et ce n'est pas la première, ça a toujours été le cas lorsqu'on réprime des manifestations, que ce soit à Goma, que ce soit ici au Grand Nord, à Butembo Beni. On ne cesse jamais d'enregistrer ce genre de cas lorsque toujours on est en face de manifestants qui souhaitent non violents. Deuxième question que l'on essaie de se poser et que le rapport vient remettre à la place publique, la question qu'elle se pose, comment nos services, comment nos autorités ont laissé se développer pareil mouvement en pleine ville, à pleine ville comme celle de Goma, ça a pour autant à l'étouffer de le départ. Si tel n'est pas le cas, il faut qu'ils admettent alors que ce n'était pas un groupe subversif et ce n'était pas un groupe dangereux, c'est un groupe des adeptes d'une secte religieuse et qui se réclamait d'Oazalen, mais qui n'était pas porteur d'armes, ce qui a eu des bavures commises de ce côté-là. Alors cela nous amène aussi à comprendre le plaidoyer qui est adressé par les l'organisation de défense des droits de l'homme, parce qu'il veut voir que des poursuites soient étendues, et notamment sur des autorités beaucoup plus gradées. Et on voit, par exemple, le général Constant Ndima. On se rappelle que c'est dans ces circonstances qu'il avait été rappelé à Kinshasa. Pourquoi? Qu'à l'intérieur, eux-mêmes se reprochaient de quelque chose, et peut-être qu'ils évoquaient un degré de responsabilité dans le chef de l'ancien gouverneur militaire. Et ça vaut la peine. Je suis vu le porte-parole du gouvernement qui a rétorqué qu'ils n'ont pas attendu les rapports d'Amnesty pour agir. Ils ont ouvert une enquête. Il y a un procès qui a été tenu. Mais je pense que qu'on ne compterait pas le gouvernement congolais de pouvoir ouvrir une enquête sur ce dossier, mais il peut examiner, voir s'il y a de nouvelles informations qui peuvent faire objet d'enquête ou de poursuites, de le faire, parce que c'est au nom de la justice, c'est au nom de la réparation, c'est au nom de la vérité, ça vaut la peine que les gens soient informés sur ce qui s'était passé, parce que ce drame qui a affecté des familles, qui a affecté des communautés, et ça ne vaut pas la peine que nous puissions continuer à bâtir l'histoire de notre pays et sur base des procès mal aboutis, des procès à moitié aboutis, parce qu'il y a toujours des problèmes qui vont persister. Parce qu'en lisant par exemple les rapports, on va noter qu'il y a des familles aujourd'hui et qui n'ont jamais eu de nouvelles de leurs proches qui étaient... dans le SIDA, qui était donc dans le contexte de l'SIDA, ce sont donc des familles qui ont besoin de la vérité, qui ont besoin de la justice pour qu'ils soient fixés sur les sorts de leurs familles. Et à peur de famille, l'État devrait quand même se pencher ce côté-là pour qu'une part de vérité soit connue dans ce sens-là. Donc c'est ce que je peux dire au sujet de ces rapports qui viendraient mettre à la place publique donc des interrogations qui l'ont cessé de se poser après cet SIDA Kakoni Goma. Donc.
Merci beaucoup, cher collègue. Collègue Claude Senghenia, nous rappelons que vous êtes journaliste correspondant des actualités.cd basé à Butembo, Nord Kivu. On vous garde en ligne et je souligne que la justice élève une nation. Professeur Dadis Allais, vous êtes expert en développement et vous connaissez mieux la région du Nord Kivu. Comment commentez-vous ces rapports qui a été publié le mardi dernier par l'ONG Amnesty International qui demande à ce qu'on puisse interpeller certains officiers haut gradés de l'armée à la suite de l'incident qui s'est passé le 30 août 2013 dans la ville de Goma?
Je commencerai par dire que c'est normal. Toute personne a le droit d'avoir un regard sur des faits, n'est-ce pas? Et d'une façon autorisée par rapport aux normes des collaborations au niveau international, Amnesty a le droit de faire entre guillemets des enquêtes, mais n'a pas le droit de condamner qui que ce soit, ce qui est tout à fait normal. Alors, ça revient à tout ce qui a été dit déjà, pour ne pas répéter mon co-débatteur. Donc, on comprend exactement que Amnesty relève le point qui sont déjà connus et que effectivement un d'entre eux est déjà condamné. Et qu'effectivement, on se pose des questions, comment est-ce que le général Ndima, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas été condamné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Ça reste flou, et ainsi que l'autre monsieur qui n'est pas aussi condamné. Mais il y a quand même la justice congolaise qui a fait son travail, bien ou mal, ça va, mais il y a un travail qui a été fait et que j'estime personnellement que...
Mais s'il y a une remise en question des conclusions du travail qui a été fait par la justice congolaise, je pense qu'on peut avoir aussi les droits d'un deuxième regard sur ces dossiers.
Ça arrive partout au monde, parce que je suis patriote avant toute chose. Il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose de spécial là-bas, parce qu'au fond, on prend ça comme un feu extraordinaire. Non, ce n'est pas du tout extraordinaire. Même à la justice américaine, on a reproché les votes, n'est-ce pas, avec Trump, ce qui fait que quelqu'un peut venir dire non, voilà, il y a des défauts, il y a des preuves à l'appui et qu'on peut reprendre l'affaire.
Exactement.
Ça existe. Ce qui fait que la recommandation, c'est est-ce que Amnesty peut déposer les preuves, n'est-ce pas, aux instances compétentes? Parce que je précise à tout le monde, Amnesty n'est pas compétent, ça va, dans la justice congolaise. Ce qui fait que ça peut déposer de preuves ou bien de plaintes, ou bien etc. D'abord au niveau national, il faut pas prendre le niveau international comme si on dépend du niveau international. Non, c'est d'abord le niveau national et un débat devait se faire. Mais maintenant, rentrons un peu dans le fond. Parce que tout le monde en parle, et c'est gênant un peu, mais les gens ne parlent pas du fond du problème. Pour quelle raison il y a eu massacre?
C'est quoi le fond du problème?
Exactement. Le fond du problème, c'est que ces groupes, ces sectes réclamaient le départ de la MONUSCO. Il n'y a pas 5 sujets. C'est ça le problème. Et que effectivement, comme Amnesty, parce qu'on a lu son rapport, soulève...
Les FRDC devraient protéger les installations de la MONUSCO.
Exactement. Voilà. Or, il y a un fait très important qui ne semble pas être très soulevé, ni dans le rapport d'Amnesty, ni quelque part. C'est là où je me dis, est-ce qu'il y a un goût sous roche? D'habitude, connaissant la façon de fonctionnement des organisations internationales, et surtout la MONUSCO, qui est une très grande organisation, avec un grand budget, il y a toute une mobilité dans le sens des renseignements. D'accord. S'il y a eu un plan concocté par les gouverneurs, établi par les gouverneurs, pour protéger les installations de la MONUSCO, je pense que la MONUSCO devait être informée. Si la MONUSCO n'est pas informée, donc il y a un point de non-professionnalisme à la MONUSCO.
Exactement.
Est-ce que la MONUSCO peut aussi, on peut nous dire quel est le responsable de la MONUSCO?
Elle a aussi été citée dans les rapports.
Exactement. Maintenant, quelles sont les responsabilités établies? Ok, parce que là, nous prenons le responsable qui a établi les rapports du côté gouvernement, mais on ne cite pas, on ne condamne pas. Ça va, la responsabilité, effectivement, des services de sécurité de la MONUSCO. Est-ce que les services... Parce que, vous savez, non-assistance en personne en danger pouvait être aussi condamnée.
Exactement.
Si la MONUSCO était informée qu'il y a eu des descentes, d'abord à la radio, mais comment est-ce que... Qu'est-ce que ça allait avoir avec les installations de la MONUSCO? Si la MONUSCO était informée qu'il y a eu des descentes à l'église, parce que le massacre, pour ceux qui ne comprennent pas ces cas-là, les massacres ne se sont pas déroulés aux alentours des installations de la MONUSCO.
Non.
Non, ça s'est déroulé à l'église et à la radio de cette organisation-là. Donc, rien à voir avec déjà le fait que quelqu'un est en train de commettre les crimes. Ou bien quelqu'un prépare vraiment les crimes. C'était pas un crime. C'est ça la liberté, il faut dire. Quand on veut la liberté, c'est la liberté totale. Il faut pas la liberté pour certains, la liberté pour d'autres. Il y a personne qui avait un plan, à ma connaissance, et dans aucun rapport, de descendre pour tuer la MONUSCO. Non, c'était une réclamation, n'est-ce pas, sit-in, etc., pour demander à la MONUSCO de partir. C'est une liberté. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et jusque là, aucun responsable de sécurité de la MONUSCO n'est mis en cause? Je pense que c'est un, ça ne va pas. Vous voyez comment est-ce que j'ai rebondi? Un responsable, et quand? Vous savez ce que je cherche ici?
Donc, il y a eu un problème de coordination.
Tout à fait.
De coordination entre la MONUSCO et le gouvernement.
Oui. Exactement. Mais là, on cite les responsables qui ont participé à la coordination côté congolais. Où sont les responsables qui ont participé à la coordination côté Nations Unies? Pour citer Nations Unies et pas MONUSCO nécessairement. Nations Unies. Où sont-ils? Il faut qu'ils soient cités. Il faut qu'ils disent que non, moi, je n'étais pas informé qu'on allait faire des descentes à la radio. Moi, je n'étais pas informé qu'on allait faire des descentes, par exemple, à l'église. Qui a donné cet ordre-là? Or, je connais de quoi je parle. Les Nations Unies sont très informées, très professionnelles. Ils ont des services extraordinaires pour ceux qui ne les savent pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont cités avec une légèreté déconcertante? Parce qu'effectivement, nous savons très bien comment est-ce qu'on a certaines autorités qui ont peur des Nations Unies. Ayant peur des Nations Unies, et à tout prix il faut protéger les Nations Unies, ben, apparemment, le bévu risque d'être arrivé parce qu'il fallait protéger les Nations Unies à tout prix. Qui a demandé qu'on peut protéger les Nations Unies à tout prix et en tuant les Congolais? Parce qu'ils devaient faire des grèves. C'est qui? Là, on ne cite pas. Et là, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas du tout à l'aise. Parce qu'effectivement, le général Nguima, personne n'a dit qu'il était au front. Mais il devait être auditionné et comme responsable, ça va, peut-être d'avoir ordonné. Qui a ordonné? Peut-être que c'est Kinshasa. Parce qu'il y a eu une confusion entre l'armée et la garde républicaine. Ouais, je connais les cas militaire, comme j'étais là. J'étais à Goma. Il y a eu quelqu'un a donné un ordre pour tirer et a demandé à d'autres éléments de s'écarter.
Et cet ordre est venu d'où?
D'où? Ce n'est pas compliqué. Quelqu'un doit dire qui a donné cet ordre. Et en grande partie, franchement, ça risquerait d'être Kinshasa. Kinshasa ne semble pas non plus être cité dans ce dossier. Donc, j'ai pour moi deux grands responsables qui ne sont pas cités. C'est Kinshasa et New York. Je précise. Kinshasa et New York ne sont pas cités dans le dossier. On me cite le général Nguima. Je vous précise. Le général Nguima ne pouvait pas prendre une décision aussi grave de tirer sur la population civile, juste de son propre chef. Si c'est le cas, franchement, il devait déjà être arrêté. Et pourquoi ne pas arrêter? Mais non plus, au niveau des Nations Unies, quelqu'un devait être informé. Je vous parle du degré extraordinaire de professionnalisme des renseignements des Nations Unies que je connais et des brigades qu'il y a là-bas. Où est-ce qu'ils sont tous ces responsables-là? Donc moi, je suis tout à fait d'accord que les vrais responsables devaient être arrêtés, mais les vrais responsables sont au niveau des Nations Unies et sont au niveau du gouvernement congolais. Il ne faut pas seulement salir l'armée congolaise. Non, c'est pas totalement l'armée. Comme ce n'est pas totalement les Nations Unies. Ce sont des gens, d'une façon précise, qui doivent être cités. Et là, je vous cite, les responsables de la sécurité des Nations Unies doivent être cités. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant que pour moi, il n'est pas cité, parce qu'il n'a pas été cité dans le procès au niveau congolais.
Oui, mais je le rappelle, dans les rapports d'Amnesty International, on en fait également allusion à la MONUSCO. Merci beaucoup de votre analyse, professeur Dadi Saleh. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en développement. Je me tourne vers vous, Pascal Kambala. Vous êtes journaliste à la rédaction de la Radio Biwan, basée ici à Kinshasa. Comment analysez-vous ces rapports d'Amnesty International?
Il faudra tout d'abord aller vers la nature de l'ONG appelé Amnesty International. C'est quoi cette ONG? C'est une ONG internationale qui évolue dans le domaine des droits de l'homme et autres, basée à Londres. C'est une ONG internationale qui est basée à Londres, mais qui s'intéresse aux activités de droits de l'homme dans les pays où ils sont invités. Il faudra faire très attention. Moi, j'en appelle tout d'abord, quand nous avons des problèmes dans notre pays, parce que nous sommes dans un état de droit, il appartient à l'État congolais, qui a toutes ses institutions, je pense ici à la Commission nationale des droits de l'homme, de mener aussi des enquêtes, des produits et des rapports qui doivent édifier la République. Il faudra que nous, Congolais, nous puissions nous-mêmes faire des enquêtes avec nos services et relater la vérité des faits.
Oui, mais en même temps aussi, chers collègues, la RDC n'évolue pas en vase clos. La RDC a ratifié des conventions internationales.
Non. On doit faire très attention. Quand le Capitole a été pris d'assaut par les partisans de Donald Trump, aucune institution internationale n'a fait un rapport là-dessus. On doit faire très attention. C'est comme ça que nous, on nous prend pour des gamins, des gosses, n'importe quelle institution à travers le monde peut produire un rapport. Il y a des massacres par-ci, par-là. On s'intéresse pas à ça. On n'en parle pas. Et on doit faire très attention. Donc aujourd'hui, moi, je pense que nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Il appartient aux Congolais, nous-mêmes, de produire des rapports qui relatent la véracité des faits et arriver à punir. Nous avons les juridictions militaires. Et on doit faire aussi très attention dans la partie est du pays. C'est une zone où il y a l'état de siège a été déclaré, décrété. On doit faire très attention par rapport aux faits et gestes des gens. Quand un mouvement sort pour s'attaquer à la Nations Unies, or, les Nations Unies bénéficient aussi de la protection au niveau local. Je vais faire des signes. Donc, ici, j'en appelle à la prise de conscience des Congolais. Nous sommes un pays agressé. Nous ne devons pas susciter des troubles au niveau interne. Nous devons arriver tout d'abord à préserver notre intégrité nationale, à bouter dehors l'ennemi, l'étranger, l'agresseur qui est venu endiguer notre pays. On ne doit pas, entre nous, créer de vrais problèmes. Sinon, nous ferons les jeux de l'ennemi. Si on nous fait nos jeux de l'ennemi, enfin, je trouve anormal. Pourquoi ne pas aller vers des négociations, vers des palabres par rapport aux problèmes qui sont suscités au niveau de la partie est du pays. Aujourd'hui, les familles pleurent les leurs. Les enfants, les papas, les mamans sont morts, ont été tués. Donc, il appartient à nous, Congolais. Il faut une prise de conscience nationale. Une prise de conscience nationale par rapport aux faits, par rapport à la situation dans la partie est du pays. Il y a des gens, il y a des déplacés interne. Il y a des mamans, on voit les enfants qui n'étudient pas, des parents qui ont perdu leurs frères, des mamans qui ont perdu leur mari. On doit quand même faire très attention à cette partie du pays. On ne doit pas susciter des problèmes, alors qu'on a un réel problème qui guette l'intégrité de notre pays. On doit arriver à solutionner. Ici, pour terminer, il faudra que l'État congolais ait appris qu'il y a eu les tribunaux militaires ont siégé. Il faudra qu'on arrive vers la véracité des faits et établir les responsabilités. On doit, je salue tout le monde de la partie est du pays ou qui souffre avec cette agression. On ne doit pas surtout arriver à susciter des problèmes. Non, par contre, nous devons aller vers des solutions, trouver une solution que la paix dans la partie est du pays soit rétablie rapidement. Il faut que les enfants retrouvent l'école, le chemin de l'école. Il faut que les mamans retrouvent les champs. Il faudra que nos parents retrouvent leur famille, les parents, les gens qui ont laissé. Qui peut accepter que cette partie soit en ébullition plus de 20 ans?
Merci beaucoup.
On tue dans la partie est du pays. On pille dans la partie est du pays. On tue et on doit arriver quand même à trouver une paix. On ne doit pas encore rajouter des problèmes par rapport à d'autres problèmes que nous avons. Donc, pour moi, s'il faut qu'on conclue, il appartient à l'État congolais de produire un rapport qui étaye clairement la situation des faits et les responsabilités.
Merci beaucoup, cher collègue Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste de la rédaction de la Radio Biwan, basée ici à Kinshasa. Et j'ai dit merci à vous tous d'avoir émis vos commentaires sur ces sujets qui a dominé nos éditoriaux cette semaine. Nous allons observer une petite pause, une petite pause musicale en écoutant la chanson intitulée « La paix à l'Est de la RDC » de Werrason.
Votre attention, s'il vous plaît. Non. Non à la balkanisation. Congo évoqué kokabwana jamais.
Wana mboka ya solo. Aboya kama kile tanga na mboka e. Toto batela milimo e. Abitumba mando kitoko manaka. Ne serve rien. Finissons nos efforts. Protégeons notre cher et beau pays. Congo, Congo, Congo.
Béni par l'Éternel, convoité par des nations de mauvaise foi.
Arrêtons des guerres tribales,
tout ça.
Arrêtons des conflits ethniques. Poto pangusa pinzoli ya miso ya Congo.
Wa Congo mani msimame. Nous sommes tous concernés.
Oh,
boma bato kokoti kina bapake obomi na baokapi alors ke bamboka ebele ebibaka kaka na tourisme osengi kimia kimia
Vous venez là d'écouter la chanson intitulée Paix à l'Est de la RDC, chantée par l'artiste et musicien Weranson et son groupe Wenge Musica Maison Mère. Nous clôturons en même temps la première partie de notre magazine Regard sur l'actualité de la semaine. Retrouvons-nous juste après l'édition du journal. À tout à l'heure.
Radio Okapi, Regard sur l'actualité de la semaine.
Nous voici dans la seconde partie du magazine radiophonique Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours avec nos invités ici présents au studio et au téléphone. Nous essayerons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs implications sur le vécu quotidien de la population congolaise. Dans la première partie de ce magazine, chacun de nous a émis un commentaire sur un fait d'actualité qui a retenu son attention pendant la semaine qui est en train de finir. Nous avons également commenté l'actualité concernant les rapports d'Amnesty International visant les auteurs des crimes contre l'humanité lors de la répression d'une manifestation à Goma, au Nord Kivu, le 30 août 2023. Dans cette seconde partie du magazine Regard sur l'actualité, deux thèmes feront l'objet d'analyse, à savoir les discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies sur l'état de la nation et la poursuite de l'opération Nobo qui vise à lutter contre les banditismes urbains à Kinshasa et elle va s'étaler sur l'ensemble du territoire national. Participe à ces rendez-vous Claude Osengenia, il est journaliste et correspondant de Actualité.cd, basé à Butembo, au Nord Kivu. Professeur d'Adi Salé, il est spécialiste en développement, il est avec moi ici au studio. Et nous avons également au téléphone Pascal Kambala, qui est journaliste à la rédaction de la Radio Biwan, basé ici à Kinshasa. Merci à vous tous et bonne condition d'écoute de notre émission.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiokapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiokapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiokapi.net.
Le premier sujet de cette seconde partie du regard sur l'actualité de la semaine concerne les discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies sur l'état de la nation. Le 11 décembre 2023, le chef de l'État Félix Tshisekedi a prononcé son discours annuel sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ce discours a marqué le début de son second quinquennat. Parmi les points saillants de son allocution, Tshisekedi a mis en avant les progrès économiques réalisés sous son administration et a appelé à une réforme constitutionnelle pour mieux répondre aux réalités et aspirations du peuple congolais. Il a également abordé des thèmes variés tels que la sécurité, le social, l'agriculture, la jeunesse, la justice, la diplomatie et la politique. Comment analysez-vous cette actualité qui a également fait la une de nos éditions de journaux et des radios? Je commence par vous, Claude Osengenia. Vous êtes journaliste correspondant de Actualité.cd basé à Butembo, au Nord Kivu.
Bon, en fait, depuis le temps qu'on essaie d'écouter le discours de nos présidents, surtout nous, Congolais, différents, vous avez noté et à l'introduction là qu'il a, il se vantait pour des progrès économiques réalisés. Mmh. Mais quand nous, ce que nous voyons, nous vivons, on a comme l'impression que nous ne vivons pas en fait les retombées de ces progrès économiques assez réalisés. Mmh. Il y a notre débatteur qui a évoqué ces grands problèmes vécus aujourd'hui dans des banques au niveau de Kinshasa. Ça dénote aussi des problèmes de gouvernance, ça dénote des problèmes économiques qui sont enregistrés à ces côtés-là. Et l'on est loin d'être satisfait de tout ce qu'il est en train de dire. Et puis quand on aborde, on fait une analyse potentielle de tous ces discours, on a comme l'impression que on fait l'analyse des actes et des actions que le président semble avoir mis en perspective comme des actions et a été réalisé. On a comme l'impression que nous sommes dans un état virtuel, un pays qui ne pose pas des actes, un pays qui ne vit que dans des intentions, dans des vœux, dans des volontés de faire, mais en réalité il n'y a pas vraiment d'action sur lesquelles on peut se féliciter. Parce que les quelques actions, par exemple, réalisées, je ne reviens pas sur des histoires de gratuité, de l'enseignement, de la maternité, qui ont aussi des conséquences assez graves pour nous qui sommes ici à l'intérieur du pays, par exemple. Et il y a des problèmes. Par exemple, les quelques actions, quand il évoque le problème de l'électricité dans notre pays, et quand on évoque la SNL, la Société Nationale, et de ce côté-là, on sait que le président est resté encore une fois dans le vœu, les intentions que la SNL veut faire ceci pour élargir ceci. Et les quelques réalisations, ce ne sont que des initiatives du secteur privé. Par exemple, pour nous qui sommes ici au Nord Kivu, il évoque le cas de l'électricité à Goma, Nyiragongo, Rutshuru avec Virunga Énergie de notre côté, à Butembo, Lubero avec une société privée française. Et je pense qu'il y a un problème. Et nous ne cessons de nous demander pourquoi les privés réussissent là où l'État échoue. C'est ça, c'est le grand problème. Moi, je suis à Butembo. À une période donnée, c'est dans le régime passé, il y a eu un ministre de l'Agriculture qui avait également fait poser ce genre d'actes, il a acheté des tracteurs, il les a distribués sans une planification bien réfléchie. Mais vous savez ce qui s'était passé? Nous avons rencontré des tracteurs traînés dans des parcelles déjà ici en ville. Je pense que le pays doit se mettre sur une table, se regarder en face et poser de vrais problèmes. C'est quoi le problème? Pourquoi Congo Airways échoue là où CAA réussit? Prochainement, ce discours pourra être
beaucoup plus réaliste,
seulement sur des actions posées que sur un chapelet d'intentions qui ne rassure pas et qui nous pousse à nous interroger si nous vivons réellement sur une même planète, quoi.
Merci beaucoup, cher collègue Claude Senghenia. On vous garde en ligne et rappelons que vous intervenez, hein, vous êtes journaliste de la rédaction actualité.cd basé à Boutembo. Au Nord Kivu, on vous garde en ligne. Je retourne ici au studio et pour donner la parole au professeur Dadi Salé. Il est spécialiste en développement. Dites-nous, quelle est votre opinion sur les discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement. C'était le mercredi 11 décembre dernier.
Le premier point, c'est que malheureusement, ça confirmait notre crainte d'un leadership en Afrique où les gens dirigent par défi. Je précise parce qu'au fond, on peut dire tellement de choses, mais on se pose la question, qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on devait retenir? Je sens qu'on dirige encore par défi. La direction par défi, c'est une direction qui ne répond pas aux normes logiques d'un développement à court, moyen et long terme. Parce que ça répond par un logique, j'ai raison. Ça signifie que la direction par défi manque un peu ce que nous appelons le management basé sur le résultat.
Ou dans une approche dialectique.
Exactement. Je vous assure, malheureusement, c'est ce que le peuple a reconnu. Semble, quand je pose des questions dans la population, dans tous les discours, donc il a parlé du changement de la constitution, réforme, révision, nous tournons encore une fois dans des polémiques. Ça va? On reste encore une fois dans la direction par défi. Il a encore créé les défis. On doit réformer la constitution. Il n'est pas obligé de trop en parler. Pour réformer ou bien changer ou bien, etc. On n'est pas obligé de tout en parler, on est obligé d'entrer dans l'application par rapport effectivement à la loi, ce que vous confère la loi et vous appliquez, c'est tout, quelles que soient les oppositions ou etc. Mmh. Mais la direction par défi. Moi j'espérais quoi? Parce qu'effectivement, de ce discours, j'ai pensé que l'état de la nation aujourd'hui, c'est quoi? L'état de la nation, c'est que nous sommes en guerre. Il y a des guerres en République démocratique du Congo. C'est un peu comme à l'Ukraine si vous dites que non, il y a des guerres à l'est de l'Ukraine. Non, il y a guerre en Ukraine. Déjà, les gens ne sont pas prédisposés à comprendre que nous sommes en guerre. On est en guerre, mais on n'arrive pas à déclarer la guerre. J'ai pensé, comme le président de la République l'avait si bien dit, il parlait d'escarmouche, ça va. Et je vous assure, si vous vivez à Goma, vous vivez un peu, vous êtes patriote, nous étions contents ces jours-là. Parce que on ne peut pas être une nation partout au monde où on vous attaque avec preuve. Preuve de l'ANR, preuve des Nations Unies, c'est-à-dire de la MONUSCO, preuve de tout le monde que le Rwanda nous attaque, et nous, on n'a jamais attaqué le Rwanda, même d'un mètre. Nous attendions à ce que le président de la République déclare qu'il enclenche l'article 86 de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'état de guerre. Parce qu'on est sorti de l'état des sièges, article 85, tout le monde a vu les limites, quel que soit ce qu'on va faire, mais pourquoi ces articles-là se suivent? Et les gens pensent effectivement que l'article 86 de la Constitution, ce sont des fleurs dans la Constitution. Quand est-ce qu'on déclarera la guerre une seule fois de notre vie? Si les éléments nécessaires ne sont pas là pour déclarer la guerre. Et contrairement à ceux qui pensent, je ne suis pas un va-t-en en guerre. Je suis quelqu'un de la paix. Mais la paix ne se fait pas s'il n'y a pas des rapports de force. Vous comprenez effectivement que... Et Kagame l'a répété 1000 fois, je suis désolé. Il a répété, il va faire la guerre au Congo parce que lui, son pays est petit. Effectivement, il suffit tout simplement d'inquiéter Kagame. Vous allez voir comment au niveau des Nations Unies, les cartes vont changer. L'essentiel n'est pas le changement de la Constitution. L'essentiel, c'est vraiment avoir la paix. Sinon, les Nations Unies, la MONUSCO ne seraient pas encore là.
Merci beaucoup d'avoir émis votre avis sur le discours du chef de l'État concernant l'état de la nation. Le 11 décembre dernier, devant les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Pascal, cette fois-ci, je me tourne vers vous parce que Kambala, je rappelle que vous êtes journaliste de la rédaction de la radio Biwan, basée ici à Kinshasa. Comment ou quelle est votre perception sur les discours du chef de l'État devant les deux chambres réunies le 11 décembre dernier?
Oui, merci. J'ai suivi les discours du chef de l'État. Il a parlé de tous les secteurs, mais un seul secteur où il n'a pas parlé, c'est sur les changements des mentalités. La prise de conscience des Congolais. Il était devant la classe politique, les députés et sénateurs réunis, les membres du gouvernement, corps diplomatique. J'ai vu même l'armée qui était là, la population qui chantait, aux membres de l'Union sacrée. Il devait insister sur le changement des mentalités, la prise de conscience. Nous avons des défis majeurs à relever dans notre pays. Si nous ne sommes pas conscients, si nous ne sommes pas, nous ne changeons pas nos mentalités, le Congo risque beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à connaître de mauvaises choses. Je vais vous donner un exemple. Il est anormal, j'insiste, qu'on continue jusqu'aujourd'hui à ne pas respecter le code minier. Pourquoi le chef de l'État n'a pas parlé de ça? Les sociétés minières doivent rapatrier 60% des produits de la vente. Avec cet argent-là, si l'argent, les fonds rapatriés sont logés à la banque centrale et on remet aux sociétés minières les francs congolais, je vous assure, dans 2 semaines ou 3 semaines, le franc congolais aura de la valeur sur le marché d'échange. Il y a un problème de changement des mentalités. Vous ne pouvez pas aller vers le développement avec des mentalités actuelles. Il appartient à nous, Congolais, d'abandonner nos mauvaises pratiques. Comment comprendre? Vous êtes DG dans une entreprise. Vous vous amenez avec vos membres de famille. Vous ne prenez que les gens qui sont de votre parti politique. Allez-y. Il y a les états généraux du portefeuille. Allez-y voir dans ces entreprises publiques. Les gens, la catégorie des gens qui sont nommés, ils viennent d'où? Tous ces Congolais qui n'ont pas de gens, qui n'ont pas de membres de famille politique, que les Congolais lambda, qui n'a personne, qui va l'engager demain? Allez-y dans une entreprise, ici on paye, je cite le nom, la SONAS, la Société Nationale d'Assurance. Quand vous payez à un agent de la SONAS $1, oui, au taux de 850, comment il peut avoir un pouvoir d'achat sur le marché d'échange, alors que l'assurance est vendue au taux du jour? Est-ce que le président de la République ne connaît pas ces dossiers-là? Donc c'est-à-dire que nous avons de vrais problèmes. Nous pouvons nous pavaner secteur par secteur, mais il y a un vrai problème. Tant que le Congolais ne changera pas de mentalité, tant qu'on verra des gens habillés avec costume, veste, cravate, des gens, des autorités qui ne comprennent pas qu'il faut aller vers la métanoïa, le changement de comportement.
Pour les temps s'égrènent vite, hein. On a encore un sujet à développer dans les cours de ces rendez-vous.
Je termine pour dire ceci. Moi, je soutiens qu'il y ait, je demande à la population, à nous Congolais, y compris moi-même, il faut qu'il y ait changement de mentalité. Il faut qu'il y ait prise de conscience que 64 ans, notre pays est indépendant, mais le pays peine à décoller. Il faut qu'il y ait prise de conscience.
Merci beaucoup, Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste de la rédaction de la Radio Biwa. Non, merci à vous tous, hein, à vous trois, d'avoir commenté cette actualité relative à l'adresse du chef de l'État sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement. Assemblée nationale et le Sénat. Le troisième et le dernier sujet de ces magazines concerne le déroulement de l'opération Ndobo qui vise à lutter contre les banditismes à Kinshasa. L'opération Ndobo, lancée pour lutter contre le banditisme urbain, a permis l'arrestation de 784 individus identifiés comme membres des gangs en Kuluna. Et cette opération menée par la police nationale congolaise s'est déroulée principalement dans la nuit du 6 au 7 décembre 2024 et a couvert plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Et l'opération, elle est en plein développement ici à Kinshasa. Le vice-ministre en charge de l'intérieur, Jacquemain Chabani, a souligné que ces individus sont en cours de procédures judiciaires et seront déférés devant leur juge naturel. Et l'opération Ndobo est prévue pour s'étendre à d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo afin de réduire les taux de criminalité, surtout dans les zones urbaines de la RDC. Comment analysez-vous cette actualité? Je commence par vous, Claude Senghenia. Nous rappelons que vous êtes journaliste, correspondant des actualités.cd, basé à Butembo, au Nord Kivu. Dites-nous quel est votre commentaire ou votre perception des faits sur cette opération qui a été lancée par le ministère de l'Intérieur pour lutter contre le banditisme urbain, en RDC notamment.
Merci beaucoup. En fait, le phénomène, le banditisme urbain n'est pas vraiment un phénomène spécial ou unique pour le Congo. C'est un phénomène auquel est confronté plusieurs États du monde, plusieurs nations du monde font face à ces problèmes. Au pays, plusieurs villes en dehors de Kinshasa font face également à ces problèmes, mais c'est dans tous ces États, comme dans toutes les villes de notre pays, et c'est un problème qui illustre très bien les conséquences ou les retombées d'un problème de gouvernance. D'abord, c'est pas la première fois que nous entendons parler d'une opération de traite des couloirs à Kinshasa. C'est pas la première fois.
Tout à fait.
Plusieurs administrations policières se sont succédées à la tête de la ville converse. Ils ont lancé des opérations. Ils ont traqué les Kuluna, mais les problèmes persistent et les problèmes demeurent. Et il en est de même à l'intérieur du pays, dans plusieurs villes. Goma, phénomène Maibobo, Butembo, il en est de même. Donc, ce sont des problèmes qui illustrent un sérieux problème de gouvernance. Et je pense, par moment, nous nous trompons de solutions parce que nous faisons trop de bruit sur l'unique solution qui semble être la traque, alors que c'est un phénomène qui nécessite un traitement holistique. Il faut prendre en compte plusieurs dimensions du problème Kuluna pour essayer un peu de les résoudre. Et donc je pense que l'État doit réfléchir beaucoup plus et ne pas à se limiter, ne fût-ce qu'à faire de la PIB à une opération, parce qu'après celle-ci, je crois qu'il y aura une autre opération, il y aura une nouvelle opération, il y aura des éternelles opérations, tout simplement parce que la prise en charge de ces phénomènes n'est pas vraiment holistique.
Merci beaucoup, cher collègue Claude Senghenia. Nous rappelons que vous êtes journaliste et correspondant des actualités.cd basé à Butembo, au Nord Kivu. Donc, vous souhaitez que ça soit dans une approche beaucoup plus multidisciplinaire, dans une approche holistique. Professeur Dadi Salé, vous êtes spécialiste en développement. Quelle analyse faites-vous concernant cette énième opération de lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa? L'opération est appelée à s'étaler à travers la République.
Ben, il faut lutter, il ne faut pas abandonner, ce qui fait que j'encourage l'opération. Cela étant, comme mon co-débatteur venait de le dire, c'est insuffisant. J'encourage totalement l'opération. Franchement, il n'y a rien à dire. Il faut y mettre le moyen. J'ai suivi les points de presse encore une fois du vice-premier ministre.
Jacquemain Chabani.
Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas accepter que les Kuluna dominent et puissent faire la loi. rien à voir avec d'abord toutes les autres questions. Maintenant, la question de l'approche holistique, c'est tout à fait normal. Parce que dès qu'on parle de l'approche holistique, revenons un peu au fait. On ne peut pas chercher une solution opérationnelle à un problème structurel. Toute solution opérationnelle, parce que ça c'est une solution opérationnelle s'il vous plaît, c'est une solution opérationnelle, ça n'a rien à voir avec des lois et un grand changement total, ça va de la société, puisque comme notre ami vient de le dire, il y a l'employé, etc., il y a beaucoup d'éléments là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut d'abord effectivement y trouver une solution holistique, c'est-à-dire que c'est une solution structurelle. Dans ces cadres-là. Donc, je demande au vice-premier ministre, au gouvernement, de réfléchir encore mieux et de trouver une solution un peu structurelle. Ce qui est possible. Parce que, tenez un exemple simple. Est-ce que vous savez que si nous arrêtons les koulounas qui sont dans la rue, qu'en est-il effectivement des koulounas en cravate? Parce que je pense effectivement que les gens qui devaient être premièrement arrêtés et tués, ça va, par rapport à cette loi, je soutiens cette loi.
Et parce d'ailleurs, que... professeur, le ministre Maître oui. Constant Moutamba, ministre de la Justice, oui. il a dit que les auteurs, les gens qui seront il y a parmi les koulounas arrêtés qui sont en procès à l'instant, il y a de ceux-là qui seront qui vont subir la peine capitale.
Oui, puisque le moratoire n'est plus là. Et que je rappelle à tout le monde quels que soient les droits de l'homme, ça va. En République démocratique du Congo, la condamnation à mort existe, comme en Amérique d'ailleurs. Comme ça qu'on ne pense pas que ça, c'est ça le vrai problème, que tous les gens des droits de l'homme ne viennent pas me taper dessus, parce que c'est tout à fait ça depuis des années. La peine de mort existe aux États-Unis, la peine de mort existe en République démocratique du Congo. Il y a juste des moratoires pour suspendre l'exécution de la peine de mort, et ce moratoire a déjà été levé. Ce qui fait que le ministre de la Justice a tout à fait raison, c'est pas une invention, il faut appliquer la peine de mort comme la loi le dit.
Mais on peut faire de ces gens des bâtisseurs, professeur.
Il y a pas de problème.
Qui a dit parce que le service national qui a eu à récupérer ces jeunes gens et qui ont été formés au service national, ils sont devenus des bâtisseurs, ils font les travaux, on les voit ici à Kinshasa faire les travaux de kirage et autres.
Pas de problème, allons aux États-Unis comme ça, tous les condamnés à mort seront des bâtisseurs et vont devenir des présidents de la République. C'est pas ça la logique. Il y a des programmes, je l'ai dit, il y a des angles. On ne dit pas qu'on tue quelqu'un pour le tuer.
Non.
Non, on tue pour faire des exemples quand il a exagéré, parce qu'il a violé ta maman, il a tué, il a égorgé 3, 4, 5 personnes de sang-froid, il a récidivé. Vous pensez quoi? Il faut le faire bâtisseur.
Non.
Et où est-ce qu'on aura l'exemple? C'est quoi ça? Ce sont des arguments des gens des droits de l'homme qui ne comprennent pas les circonstances. Je suis direct. Il faut le tuer. Ça va. Pour l'instant, nous sommes en guerre. Moi, professeur docteur Dadi Salé, il faut les exemples. Celui qui vole $1 million, il a privé énormément des Congolais de ce qu'il faut. Il faut le fusiller. Moi, je préfère que vous commenciez l'exemple des koulounas en cravate. Et il y en a beaucoup. Et vous-même, vous en avez parlé et qui passent par des radios raconter n'importe quoi. Donc, je pense que cette opération Ndobo, ce qui est une belle opération, mais ben pourquoi est-ce qu'on s'attaque seulement aux koulounas qui sont un peu trop vulnérables, comme le vice-premier ministre l'a dit, et on connaît leurs adresses, comme effectivement on connaît les adresses des koulounas en cravate. Mais pourquoi on n'a pas la même opération? Ben oui, écoutez, j'ai participé aux états généraux de la justice, mais les responsables de l'IGF l'a si bien dit. Il y a des dossiers qui sont clairs. Et il a répété. Il y a des voleurs matin, midi, soir. Ce n'est pas moi, Dadi Salé, je l'ai dit. Mais avec preuve à l'appui. Mais pourquoi ces voleurs ne sont pas inquiétés? Pourquoi ils ne sont pas fusillés? Si vous allez au Japon et que vous volez 1 million, 2 millions, posez-vous la question, qu'est-ce qui va vous arriver? Non, s'il vous plaît. La situation actuelle de la République démocratique du Congo nécessite effectivement de telles opérations, mais que ces opérations ne soient pas sélectives par rapport à une population. Moi qui milite pour le pauvre, ça va. D'ailleurs, ces gens-là, il y aurait un peu plus de clémence. Si vous comprenez, parce qu'on peut se dire il a une mauvaise vie, il a grandi dans un contexte de pauvreté. Mais toi ministre, toi député, toi responsable, tu as des jeeps gratuitement, tu touches 10 000, 20 000 dollars et tu nous voles encore 1 million de dollars. On te fusille immédiatement. Ce sont ce genre d'actions et qui seront mis en exergue. Tous ces enfants qui meurent, vous ne comprenez pas qu'il s'agit de tueries par ces gens effectivement qui ont volé 100 millions de dollars. Cause à effet direct, pas cause à effet indirect. Donc, j'exhorte le vice-premier ministre de l'Intérieur. J'exhorte le gouvernement parce que c'est une action du gouvernement. J'exhorte le ministre de la justice et surtout le président de la République de faire ces mêmes genres d'opérations. Donc j'encourage l'opération, mais je ne suis pas du tout satisfait parce qu'on s'attaque aux plus faibles. Voilà la vraie opération qu'il nous faut plutôt que des opérations seulement qui vont prendre le plus faible, même s'il faut les dire, il faut ces opérations.
Merci beaucoup professeur Dadi Saleh. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en développement. Je me tourne vers vous, Pascal Kambala, vous êtes journaliste à la rédaction Radio Biwan, basée ici à Kinshasa. Comment commentez-vous ces sujets se rapportant à l'opération Ndobo initiée par le ministère de l'Intérieur?
Oui, en fait, c'est une question qui répond à la politique criminelle du gouvernement congolais. Le gouvernement, pour s'attaquer au banditisme urbain, a mis cette opération dénommée Ndobo. Mais ici, il faudra nous dire des vérités entre nous, Congolais. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Qu'est-ce que tous les gouvernements qui sont passés depuis 1960 à aujourd'hui ont fait pour la jeunesse ou pour la famille? Est-ce que le gouvernement congolais qui sont passés actuels s'intéresse aux familles? Quelle est la situation des familles congolaises quand quelqu'un avait un travail, qu'il a été chassé injustement parce que je suis DG, j'appartiens à un parti politique? Quand on est ministre, on chasse des travailleurs. Je prends le cas d'un délégué syndical connu, Lubamba Kabeya, la DGDA, qui a fait 19 ans, un procès qui fait 19 ans, il est en dehors de son travail. Qu'est-ce qu'on a voulu faire de ses enfants, de tous les délégués syndicaux chassés dans les entreprises? Qu'est-ce qu'on a voulu faire de ses enfants, des enfants de tous les délégués syndicaux qui réclamaient, qui dénonçaient les détournements dans les entreprises publiques et qui ont été chassés, tous ces travailleurs-là? C'est-à-dire que la politique menée ici dans notre pays a provoqué ce genre de situation de Kuluna. N'oubliez pas que la pauvreté amène des gens vers le banditisme si vous n'êtes pas, vous n'avez pas des nerfs solides. Ici, il est question tout d'abord de changer nos politiques, nous qui arrivons à des postes de responsabilité. Aujourd'hui, il est question pour moi de féliciter le général Kabwik qui est à la tête du service national. Regardez comment il change nos amis, nos frères, nos sœurs, un véritable bâtisseur. Là, ce n'est pas une question d'échapper à des sanctions, mais c'est quand même de socialiser les amis, être utile dans la société. Oh, il fallait l'appuyer. J'apprécie qu'il faut étendre le service national à travers le pays.
Oui, je le précise, chers collègues, le chef de l'État également a fait allusion à cet accompagnement du service national, hein, concernant surtout la réinsertion sociale ces enfants désœuvrés.
Oui, exactement. On voit ce que le service national est en train de faire. Nous devions voir ça dans beaucoup de ministères. Que les mêmes élans, les activités. On en a assez de suivre les discours. On veut du concret. On veut des praxis, des actions. Mais il y a aussi un élément. Pourquoi il y a ce banditisme à Kinshasa? C'est puisque nous n'avons pas mis en place de bonnes politiques. Quand quelqu'un termine les études, il fait quoi après? Pourquoi il n'est pas accompagné par l'État? Pourquoi on ne soutient pas les gens à trouver des emplois? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui nous revient maintenant, c'est le manque de bonnes politiques dans le passé. Et nous sommes maintenant victimes, nous tous, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Oui, il faut appliquer la peine de mort parce que c'est prévu par rapport, si vous tuez, donc ce sont des infractions que vous aurez à commettre et qui vous seront infligées la peine de mort. Qui tue par l'épée, tu paieras aussi par l'épée. Vous tuez, on va vous tuer. Mais aujourd'hui, il faudra analyser en profondeur, donner, comme un des auditeurs, un d'invités a dit, aller vers une réponse holistique. Je vous dis, par exemple, quand vous allez en Philippines, avec le président Duterte, qu'est-ce qui a été prévu? Les banditismes galopants avec la drogue. Le président a dit, il met l'opération double canon. La police, dès que vous descendez sur le terrain, vous croisez des bandits, de grands chemins, tuez-les sur les champs, laissez leur corps, leurs membres de famille vont récupérer. Et ça a donné un impact aux autres membres, gang, à quitter le banditisme. Mais je ne dis pas qu'on doit faire ça ici. Mais ici, chez nous, ce qu'on doit faire, c'est socialiser, c'est aller occuper de nos familles. Les familles congolaises sont brisées. Regardez ce qui se passe dans la partie est du pays, avec cette agression. Tous ces jeunes gens-là, en fuite. Tous ces papas en fuite, les mamans en fuite. Ça va créer quoi? C'est à côté du banditisme, cette situation-là. Donc aujourd'hui, opération Ndobo, oui, nous saluons. Parce qu'il faut sécuriser, il faut que l'ordre public soit établi. L'ordre public, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la salubrité. Mais il faudra aussi voir que l'homme politique congolais est à la base de cette situation, parce qu'on n'a pas mis de bonnes politiques en place pour donner du travail aux gens. C'est à peine que je vois l'INPP c'est décentralisé, aller dans des provinces. Depuis tout ce temps-là, on était où? On était où pour décentraliser l'UNPP? C'est à peine, on a tué les foyers.
Des centres culturels.
Donc, c'est les foyers culturels. On a tué. On n'a pas de jeux. Les gens ne se réunissent pas. Est-ce que la jeunesse congolaise est occupée? La jeunesse congolaise est occupée. Aujourd'hui, je me rappelle du temps de Kimbuta, le gouverneur Kimbuta, avait interdit la consommation, même la vente des alcools ici, les odeurs de
convoi. Les alcools frélatés, comme on dit.
Oui. Tout ça. Mais pourquoi c'est revenu en force? Où est l'État? C'est l'absence de l'État qui crée tout ça. C'est l'absence de l'État. Quand vous, hommes politiques, vous volez l'argent, 200 millions, 100 millions, 500 millions, et saviez-vous pas que vous avez tué une bonne partie de la jeunesse? Et autant, quand on veut appliquer la peine de mort contre les Kounouna qui ont tué, et ceux qui volent l'argent de l'État, il faut qu'on ramène le code pénal chinois ici, dans un RDC, pour donner l'exemple aux politiciens qui s'hasardent. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jeu, sport national. Je vole par-ci, par-là, je serai protégé parce que nous sommes dans l'Union, nous sommes dans je ne sais pas quoi là. C'est ça le vrai problème. Parce que vous voulez une jeunesse paisible, il faut former. Vous voulez une jeunesse paisible, il faut mettre les moyens.
Il faut les encadrer.
Ils aient des moyens.
Merci beaucoup.
Les encadrer.
Merci beaucoup.
Donc, je termine pour dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, nous-mêmes Congolais, surtout les politiques congolais, ils sont responsables parce que les gens ont pensé que quand on arrive en politique, il faut voler et détruire et ils ne savaient pas qu'à côté, on produit des bandits.
Merci beaucoup, Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste de la rédaction de la Radio Biwan, basée ici à Kinshasa. Et en même temps aussi, merci à vous tous d'avoir analysé ce sujet, ces rapportons au déroulement de la traque, au déroulement passant, jeudi. 3D10, merci à vous tous d'avoir analysé ces sujets, ces rapportant au déroulement de l'opération des traques des Kounouna à Kinshasa. Et je signale que cette opération va s'étaler sur toutes les provinces de la RDC selon le ministère de l'Intérieur. Et nous allons souffler un peu avec la musique, avec la chanson Masta Kimi Komba de l'artiste musicien Jolino et nous allons revenir ici au studio.
Bonne année. na bando bona affaire à mon passage ça peigne la paix.
Nos remerciements à vous trois. Claude Sengenia, vous êtes journaliste et correspondant d'actualité.cd basé à Butembo au Nord Kivu. Merci à vous professeur Dadi Salé d'avoir été avec nous, hein. Vous êtes spécialiste en développement et merci beaucoup à vous Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste de la rédaction Radio Biwan basé ici à Kinshasa. Merci à vous trois, excellent week-end.
Merci beaucoup.
C'est par ici que s'achève le magazine radiophonique Regard sur l'actualité de la semaine. Tati Mafoukou, c'est moi qui ai présenté cette émission sous la coordination de Kéline Kouté. Martin Seboudjango était à la supervision et Billy Landry Betou était à la prise des sons. À toutes et à tous, excellent week-end et à très bientôt.